La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Lévitique 19, les versets 33 à 34. Si un étranger veut séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger aussi en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
J'étais un étranger. Après une longue famine, les puits sont finalement revenus arroser les terres de Judée. L'orge et le blé ont commencé à donner, et c'est maintenant le temps de la moisson dans les champs de Bethléem. Un riche propriétaire terrien du nom de Boaz arrive dans son champ où il y a des ouvriers qui sont occupés à la récolte. Et il remarque qu'il y a une jeune femme qui suit les moissonneurs en ramassant des épis d'orge qui sont laissés derrière eux. Il pense connaître tous les gens de Bethléem, de ce petit village, mais il n'a jamais vu cette jeune fille. Et en plus, elle est habillée différemment. Sûrement, elle doit être une étrangère. Et Boaz va vers son contremaître et lui demande « Qui est cette jeune femme? D'où vient-elle? À qui elle appartient ?» Et l'homme lui répond « Mais c'est Ruth, elle est moabite, elle est la belle-fille de Naomi qui vient de rentrer de Moab. Et aujourd'hui, elle est venue demander si elle pouvait glaner dans nos terrains. Et j'ai pensé que tu ne verrais aucun inconvénient. Elle travaille dur, tu sais. Elle n'a pas arrêté depuis toute la matinée. » Nous connaissons tous la merveilleuse histoire de Ruth dans l'Ancien Testament. Ruth n'était pas israélite. Elle n'est pas née dans le royaume de Juda. Elle est née en terre de Moab. C'était de l'autre côté de la mer Morte. Un territoire que aujourd'hui c'est la Jordanie. Les Moabites font remonter leur généalogie jusqu'à Lot, et ils sont plus ou moins apparentés aussi au peuple d'Israël. Pourtant, ils étaient considérés comme des étrangers quand ils venaient traverser le Jourdain pour faire une visite en Judée. Ruth avait épousé un jeune homme de Judée qui était venu avec sa famille vivre au pays de Moab en raison d'une longue sécheresse. Malheureusement, son mari était mort, son beau-père aussi, et maintenant elle était veuve. À cette époque, être veuve, c'était une condition très difficile. Ce n'est pas comme de nos jours, où une femme qui a perdu son mari peut trouver un emploi selon ses besoins. Les femmes n'avaient pas de carrière, elles n'étaient pas propriétaires, et elles ne pouvaient pas travailler à plein temps. Il n'y avait pas de sécurité sociale comme aujourd'hui. Et si elle n'était pas protégée par un autre homme, par le père, par le mari, elles étaient réduites souvent à la mendicité. Elles étaient vulnérables. Souvent, elles étaient maltraitées ou même exploitées. Laissées sans protection, elles avaient peu d'occasion de faire entendre leur voix. Ruth venait d'arriver à Bethléem avec sa belle-mère. Et elle avait seulement avec elle quelques affaires qu'elle avait pu prendre sur son dos. Pour Ruth, la vie s'annonçait plutôt difficile. Elle avait tout contre elle. Elle était pauvre, elle était veuve, et en plus elle était étrangère. Et quand Naomi et Ruth sont arrivées à Bethléem, les gens se sont étonnés et la Bible dit, Ruth 1,19, « Toute la ville fut étonnée à leur sujet. Deux femmes voyageant seules en terre inhospitalière, sans homme pour leur accompagner, deux veuves et en plus une qui était étrangère. Où allaient-elles vivre? Qui s'occuperait d'elles? Qui les protégerait? qui les nourrirait. Heureusement pour Naomi et pour Ruth, il y avait quelques traditions dans le pays d'Israël qui avaient été données par Dieu à Moïse, qui protégeaient malgré tout les femmes, les veuves, les orphelins et les étrangers. Par Moïse, Dieu a révélé son caractère et son désir pour protéger ceux qui sont faibles. Ouvrons nos Bibles maintenant et regardons dans Deutéronome, au chapitre 10, le verset 17-19. Deutéronome, chapitre 10, verset 17 à 19. Je lis, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas considération de personne et qui ne reçoit pas le présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été immigrant dans les pays d'Égypte. » Dieu avait choisi un moyen pour pourvoir aux besoins des orphelins, des veuves et des étrangers. C'était le glanage. Il avait donné instruction par Moïse et lui dit en Lévitique 23-22, « Quand vous ferez la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'émigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Notre Dieu dit qu'il aime l'étranger et que nous devons aussi l'aimer par des actions de bonté, de compassion et de générosité. Par l'abondance de notre moisson, nous devons partager avec ceux qui sont parmi nous. Quand les gens de Bethléem ont vu Ruth, ils ont dû se demander quel genre de personne elle était. Ils l'ont vue sans beaucoup de perspectives. Ils l'ont vue comme une femme désespérée, pauvre, une étrangère. Et cette femme qui entrait dans leur communauté allait être vraiment probablement un poids pour ce village. Quelqu'un qui devait compter avec la bonne volonté des voisins pour pouvoir survivre. Pourquoi cette étrangère était venue dans leur communauté? Pourquoi elle n'était pas restée là dans son propre pays avec ses compatriotes? Ou plutôt, pourquoi elle ne rentrait pas tout simplement dans le pays de Moab? Mais quand Dieu regarde Ruth, il voit plus qu'une étrangère. Il ne voit pas simplement une veuve, quelqu'un pauvre. Une femme sans valeur. Il voit une femme d'un prix inestimable. Quand Dieu voit Ruth, Dieu voit l'arrière-grand-mère de David et même l'ancêtre du Christ. Boaz était un homme de Dieu ancré dans les traditions d'hospitalité, d'amour et de bonté envers les étrangers. Et en montrant la compassion à Ruth, il lui a permis de ramasser toute la nourriture dont elle aurait besoin pour elle et pour sa belle-mère. Ruth et Boaz, on connaît l'histoire. Boaz a protégé Ruth et finalement, il est tombé amoureux d'elle et ils se sont mariés. Boaz va prendre Ruth, va prendre sa belle-mère et va les prendre tous les deux en charge. Cette histoire de Ruth et la bonté que Boaz lui a montrée sont une démonstration de l'amour de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. Le texte que nous lisons dans Deutéronome n'est pas seulement une situation isolée qui est enfouie dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons des passages qui nous rappellent l'importance de faire acte de bonté envers les étrangers, les orphelins, les veuves, les pauvres. Quand le prophète Malachie nous avertit sur les questions qui seront importantes au moment du jugement, Il montre particulièrement que ce sera un jour difficile pour ceux qui n'auront pas équitablement traité les veuves, les orphelins et les étrangers. Lisons Malachie 3:5 qui dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je serai un prompt accusateur contre les magiciens et les adultères, contre les parjures, contre ceux qui exploitent l'ouvrier salarié, la veuve et l'orphelin, qui oppriment les migrés et qui ne me craignent pas, dit le Seigneur de l'univers. » Jésus a aussi transmis ce même message d'une façon plus positive. Dans son dernier sermon, Matthieu 25, il a parlé du grand jour du jugement, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il va séparer comme un berger sépare les boucs des moutons. Les brebis seront à sa droite et les boucs à sa gauche. Voyons ce que Matthieu, les paroles dites de Jésus à ceux qui sont à sa droite. Si vous ne vous êtes jamais demandé quels seraient les sujets importants abordés le jour du grand jugement, ce passage de Matthieu vous donne la réponse. Prochaine diapositive nous montre vraiment la séparation que Dieu va faire. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, malade, et vous m'avez visité, en prison, et vous êtes venu me voir. » Les gens seront alors étonnés. « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé, et de te donner à boire ?» Et Jésus répond au verset 40, « en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce matin, j'aimerais que nous focalisions un peu sur l'étranger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, invité. Nous savons tous comment nous pouvons aider les pauvres, nourrir les affamés, ceux qui sont dans le besoin, vêtir ceux qui sont nus, soigner les malades, rendre visite aux prisonniers. Mais les étrangers, comment pouvons-nous accueillir les étrangers? Dans notre culture, particulièrement dans nos villes, nous sommes devenus méfiants envers tout ce qui est étranger. D'ailleurs, nous prévenons à nos enfants, attention aux étrangers, aux personnes étranges que tu ne connais pas. Au-delà de nos problèmes de sécurité, nos vies sont devenues compliquées. Nous sommes trop occupés et nous avons à peine le temps pour nous occuper de nous-mêmes. Encore moins de nos voisins et que parler des étrangers. Comment pouvons-nous accueillir l'étranger? Arrêtons un moment à la culture biblique pour voir si nous pouvons découvrir dans la Bible ce que la Bible veut dire quand elle parle d'étranger. À l'époque biblique, les gens voyageaient à dos d'âne ou à dos de chameau. Ils ne pouvaient pas parcourir de longues distances dans l'espace d'une journée. Et quand le soleil commençait à descendre, ils devaient s'arrêter là où ils étaient et trouver un espace, un endroit pour dormir, pour se protéger des attaques éventuelles des voleurs, des animaux sauvages qui pouvaient les attaquer dans l'obscurité de la nuit. Et ceux qui étaient chanceux pouvaient trouver de l'abri sous la maison ou sous la tente d'une famille qui adhérait au code de hospitalité envers les étrangers. On faisait entrer le voyageur et on lui offrait de l'eau, de la nourriture et un endroit sûr pour passer la nuit. En Judée, cette tradition d'offrir une chaude hospitalité à l'étranger en voyage remontait au temps d'Abraham. Une ancienne tradition juive raconte qu'Abraham avait ouvert les quatre pans de sa tente aux voyageurs qui passaient pour leur assurer de sa présence et qu'ils étaient les bienvenus. Nous nous souvenons de l'histoire dans Genèse 18 quand Abraham a accueilli les étrangers sous sa tente pour leur préparer à manger sans jamais s'être rendu compte qu'il avait accueilli le Seigneur et des anges lui-même. Cet ancien code d'hospitalité n'était pas uniquement exclusif au peuple juif. Il était largement répandu dans le monde ancien et surtout parmi les peuples nomades. Et tout au long des siècles est devenu un mode de survie. Dans certaines cultures, la pratique de l'hospitalité va si loin que les gens prennent sous sa protection même leurs ennemis. Et tant que leurs ennemis sont sur leur tente, ils leur doivent procurer la nourriture, la protection, et ils doivent les traiter comme des amis, comme des hôtes d'honneur, aussi longtemps qu'ils sont sur leur toit. Et ce n'était pas seulement pour le marchand et le nomade qui profitaient de l'avantage du système d'hospitalité. Souvent, les étrangers étaient obligés de fuir leur pays pour protéger, chercher la protection, pour fuir la persécution. Et ils devaient chercher protection dans un autre pays. Et quand ils allaient dans un autre pays, ils étaient sous la protection d'un réseau de personnes. Les lois de la culture leur garantissaient la protection, jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine ou qu'ils puissent s'établir dans le pays là où ils avaient été accueillis. Toutes ces conditions d'hospitalité ont survécu jusqu'à nos jours. Et si on visite ce qui était l'ancien pays de Ruth, c'est le pays de la Jordanie, vous entendrez souvent « Bienvenue en Jordanie ». Ce que les Jordaniens essayent de dire à l'étranger, c'est « Mon ami, je veux que vous sachiez que vous êtes la bienvenue pendant votre visite ici en Jordanie. » Et que vous marchiez le long d'une rue en Jordanie ou que vous traversiez un champ à la campagne, il ne se passera pas longtemps avant que quelqu'un vous offre du thé et vous offre à passer un peu de temps avec lui à l'ombre. Et si vous restez suffisamment longtemps, vous serez même invité à partager un repas en famille et rester probablement pour la nuit dans un geste d'authentique hospitalité. C'est probablement cette tradition bédouine profondément enracinée dans le peuple en Jordanie qui a fait que la Jordanie a accueilli autant de réfugiés. En raison des guerres et des conflits, aujourd'hui dans le monde, il y a autant de réfugiés ou de personnes qui ont dû fuir leur maison pour des questions de sécurité comme il y a d'habitants en France. Plus de 65 millions de personnes déplacées du confort de leur maison. De tout le pays du monde, la Jordanie, le petit royaume de la Jordanie, c'est celui qui a fait entrer le plus de réfugiés dans son pays. La France, l'année passée, en 2016, elle a accueilli 40 000 réfugiés de la crise syrienne. 40 000. La France a une longue tradition de pays d'accueil pour les étrangers. Alors, certaines ici en France ont exprimé la crainte que leurs ressources seraient affectées par l'afflux massif, entre guillemets, de ces personnes. Mais la Jordanie, elle a accueilli 2,7 millions de réfugiés. Aucun pays a accueilli autant de réfugiés comme la Jordanie. L'Ouganda, c'est un autre exemple de l'application du code d'hospitalité envers les étrangers. Le voisin du nord de l'Ouganda, c'est le Sud-Soudan, est embourbé dans une guerre civile qui a plongé le pays dans le chaos. Les soldats des deux côtés passent dans les villages, les attaquent, pillent, kidnappent, tuent tout sur leur passage sans discrimination. Les habitants, dans la peur, ramassent leurs quelques affaires qu'ils peuvent porter et fuient vers la frontière de l'Ouganda. Là, ils sont non seulement bienvenus, mais on leur offre un lopin de terre où ils peuvent construire une hutte et cultiver un petit jardin. L'an dernier, l'Ouganda a accueilli plus d'un million de réfugiés. Le mot moderne, équivalent à étranger, mentionné dans la Bible, veut vraisemblablement dire réfugié. Une des plus grandes catastrophes humanitaires à laquelle nous faisons face aujourd'hui dans le monde est la crise des réfugiés. Quand les bombes tombent et les balles sifflent, les familles et des communautés entières prennent leurs affaires et fuient avec non seulement ce qu'elles peuvent porter sur leur dos. Comme Ruth d'autrefois, elles veulent trouver une protection. Elles qui sont souvent des gens pauvres, sans travail, sans toit, étrangères dans un pays qui n'est plus le leur. Une des manières par laquelle nous pouvons accueillir les étrangers est de soutenir le travail d'ADRA. L'Agence de développement et de secours adventiste est le bras humanitaire de l'Église adventiste du septième jour. Et pendant ces 30 dernières années, ADRA a contribué à soulager la souffrance non seulement des pauvres, mais des gens qui sont aussi des réfugiés. Nous connaissons le travail d'ADRA principalement par l'intervention en cas d'urgence de catastrophes naturelles, sécheresse ou d'extrême pauvreté. Mais il fait aussi partie du travail d'aider, d'aller jusqu'au camp de réfugiés et aider dans les cas de guerre et de conflit. Pendant ces 5 dernières années, alors que la crise des réfugiés s'est beaucoup élargie, ADRA aussi a dû étendre ses activités à beaucoup de camps dans le monde. L'Ukraine, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Somalie, au Rwanda, en Serbie et même ici en France. ADRA a accueilli l'étranger, a pourvu à ses besoins alors qu'il cherchait sécurité et salut dans l'hospitalité offerte. Quand nous pensons à la détresse des réfugiés, rappelons-nous les paroles de Jésus. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Rappelons-nous l'histoire de Ruth. Quand nous pensons aux réfugiés, regardons-les comme Dieu les voit, des personnes d'une immense valeur. Imitons les Bédouins de Jordanie et développons une culture de générosité et d'hospitalité. Imitons aussi les Ougandais qui, même s'ils appartiennent à un pays pauvre, en voie de développement, eux-mêmes en grande précarité, accueillent chez eux les étrangers qui sont dans le besoin. Les Nations Unies ont déclaré une journée mondiale pour le réfugié. C'est le 20 juin. L'Église adventiste mondiale, depuis quelques années aussi, a déclaré un sabbat spécial pour le réfugié. C'était le 16 juin de cette année. Prions pour toutes ces personnes qui, de différentes manières, ont dû fuir. On peut se joindre aussi à ADRA France dans leurs actions de soutien envers les réfugiés. Ensemble, nous pouvons accomplir la demande du Christ et le mandat des Écritures en soulageant les souffrances d'un peuple en crise. Un jour, puissions-nous tous entendre les paroles du Christ : J'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen.